la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 11 mars 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, la commission d'enquête de l'ONU en RCA commence son travail cette semaine. Des dizaines de milliers de gens fuient leur maison dans le Darfour. La marine libyenne a arraisonné le tanker qui cherchait à exporter du pétrole sans autorisation gouvernementale. Poursuite de la grève au Tchad, entre un consortium chinois et ses travailleurs qui réclament une augmentation de salaire de 200%. Moscou accuse des activistes d'extrême droite et le gouvernement de Kiev de semer le chaos dans l'est pro-russe de l'Ukraine, tout en renforçant sa main mise sur la Crimée. Toujours aucune trace de l'avion malaisien porté disparu samedi avec 239 personnes à son bord. Nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Muntou et les sports. Pour l'instant, le journal. Les trois membres de ce panel de l'ONU qui doit débuter cette semaine son travail. La commission onusienne d'enquête en Centrafrique débute cette semaine son travail, Anne Albertson.
Oui, donc, comme vous venez de le dire, les trois membres de ce panel tenteront d'identifier les auteurs de violations de droits de l'homme parmi les différents groupes comme l'ex-Séléka ou les anti-Balaka. Nicolas Pineau nous en dit plus.
Lors d'une conférence de presse à Genève, les trois membres de la commission ont expliqué qu'ils ne passeraient que trois jours à Bangui avant de séjourner pendant deux semaines à l'intérieur du pays. Ils interrogeront des victimes d'abus présumés ainsi que des témoins de crimes, mais aussi des chefs de village. Quiconque aurait eu connaissance de meurtre, viol ou tout autre abus contre la population civile. Le président de cette commission d'enquête, Bernard Achomouna, est avocat à la Cour suprême du Cameroun. Il revient d'un récent séjour à Bangui. Quand j'étais là-bas il y a deux semaines, il y avait un net sentiment que tout cela doit cesser. Le gouvernement de transition souligne qu'il faut mettre fin à l'impunité, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que ceux qui ont franchi la ligne rouge répondent de leurs actes devant la communauté internationale et soient jugés si nécessaire. Cette commission a été mise en place à la demande du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Elle enquête sur les violations des droits de l'homme depuis le 1er janvier 2013. Maître Mouna a une forte expérience des questions de génocide puisqu'il a travaillé sur le Rwanda.
My experience in Rwanda shows that a genocide starts always with propaganda.
Mon expérience au Rwanda montre que les génocides commencent toujours par de la propagande. Convaincre la population que ce groupe de personnes est mauvais, qu'ils sont maléfiques et qu'ils doivent être éliminés. La commission doit présenter un rapport préliminaire en juin prochain devant le Conseil de sécurité à New York.
Quelques 100 000 enfants, dont des réfugiés nigérians fuyant les islamistes armés de Boko Haram, souffrent de malnutrition aiguë dans le nord du Cameroun, où les hôpitaux sont débordés.
Les responsables de la santé ainsi que des agences des Nations Unies ont rendu visite aux enfants et ont promis de leur venir en aide. Selon Jean-Marc Edding de Médecins Sans Frontières, un certain nombre de facteurs contribuent au nombre croissant d'enfants souffrant de malnutrition dans le nord.
La première, c'est l'absence ou l'insuffisance des aliments que l'enfant doit prendre. Il y a des facteurs environnementaux, la sécheresse, les inondations, les digues qui ont rompu, des insectes ou des sauterelles qui viennent perturber la production agroalimentaire.
Les Nations Unies signalent que plus de 45 000 personnes ont dû fuir leur maison dans la région troublée du Darfour au Soudan suite à des attaques que des informations en provenance de la région imputent aux forces gouvernementales soudanaises. Aucune confirmation indépendante de ces informations.
Selon le porte-parole Stéphane Dujarric, il y a eu aussi des actes de violence intercommunautaire, cette fois-ci dans le Darfour Nord, et des milliers de gens ont fui leur maison. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit profondément préoccupé par l'escalade de la violence au Darfour et il a exhorté toutes les parties en présence à arrêter immédiatement les hostilités.
La marine de guerre libyenne a arraisonné un navire transportant du pétrole brut qu'une milice séparatiste tentait d'exporter en dépit des injonctions des autorités nationales. Georges Léonard Sagnou.
Selon des sources militaires et pétrolières, le navire Morning Glory a été intercepté au port oriental d'As Sidra et est en train d'être acheminé vers un port contrôlé par l'État. Il bat pavillon de complaisance nord-coréen, mais l'identité du propriétaire n'est pas claire. Le pétrolier a achevé dimanche de charger du brut d'une valeur de 30 millions de dollars en dépit de la menace des autorités libyennes de le bombarder. Celles-ci ont ordonné hier aux forces nationales de se déployer dans un délai d'une semaine pour libérer tous les ports contrôlés depuis 8 mois par les rebelles dans l'est du pays. Le président du Parlement libyen, Nouri Ali Abou Saman, avait ordonné la formation d'une force spéciale composée de soldats et de miliciens pro-gouvernementaux pour reprendre ces ports qui, en temps normal, exportaient plus de 700 000 barils de pétrole brut par jour.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a accusé hier les activistes d'extrême droite en Ukraine et le gouvernement pro-occidental de Kiev de créer le chaos dans la région russophone de l'Est pendant que les forces pro-russes continuaient de saisir des bases militaires ukrainiennes en Crimée.
Le ministère russe des Affaires étrangères a dans son communiqué cité le groupe d'extrême droite Right Sector ou Secteur Droit, tout en accusant les gouvernements occidentaux d'ignorer la violence. Ce communiqué coïncide avec la déclaration du département ukrainien de la Défense, signalant que des hommes armés en uniforme ont encerclé et saisi une base navale de Crimée à Tchernomorskoïe, ainsi qu'un hôpital militaire à Simferopol.
Selon le New York Times, la police a coupé court à une interview avec un habitant de Tchernomorskoïe, menaçant ses journalistes et confisquant leurs notes. Le premier ministre intérimaire de l'Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, doit rencontrer demain le président Barack Obama à la Maison-Blanche.
La Maison-Blanche, qui dans un communiqué hier a déclaré que cette visite servira à illustrer le grand soutien des États-Unis au peuple de l'Ukraine et inclura des pourparlers sur l'assistance économique et les préparatifs des élections de mai en Ukraine.
Les autorités malaisiennes se disent prêtes à élargir de manière significative le champ de recherche de l'avion de ligne malaisien porté disparu depuis samedi avec 239 personnes à son bord.
Le directeur de l'aviation civile malaisienne a dit que la zone de recherche sera plus vaste à partir d'aujourd'hui, après que des dizaines de bateaux et d'aéronefs eurent cherché en vain pendant plusieurs jours dans un rayon de 92 km à partir du point où l'avion a disparu en mer de Chine méridionale. Les mystères s'étaient épaissis encore lundi quand des enquêteurs ont conclu que la nappe de carburant découverte au large de la côte vietnamienne n'avait rien à voir avec l'avion qui a disparu des radars samedi matin, une heure après avoir décollé de Kuala Lumpur pour Pékin.
Les autorités n'écartent à ce stade aucune hypothèse, y compris celle d'une piraterie aérienne et d'un désastre en plein vol. Les 2/3 des personnes à bord sont d'origine chinoise et le reste d'autres pays asiatiques, d'Europe et d'Amérique du Nord. Les enquêteurs examinent aussi le cas de 2 passagers qui ont pris l'avion avec des passeports italiens et autrichiens volés. Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Washington, la voix de l'Amérique. Au Tchad, 3e journée de la grève lancée par les travailleurs d'un consortium formé par les compagnies chinoises Great Wall Drilling Corporation et China National Logging Corporation, est spécialisé dans la prospection pétrolière. Évoquant des conditions de travail difficiles, les grévistes réclament une augmentation de salaire de 200%, mais le consortium ne leur propose que 2%. Timothée de Nangmaï a joint à N'Djamena Lagmé Argué, délégué du personnel du consortium pétrolier chinois.
Nous voulons qu'on augmente notre salaire à 200%. Et là, les Chinois nous ont proposé 2%. Et les autres avantages, par exemple, les primes de risque, les avantages du chantier pétrolier qu'on fait chez les Chinois, on ne gagne pas ces avantages-là. Les heures supplémentaires, ils ne nous payent pas. Parfois, on fait plus de 45 jours au chantier et 6 jours, là même, on ne nous paye pas. Donc franchement, c'est difficile avec les Chinois.
Il y a pourtant une législation du travail au Tchad, non?
Oui, il y a des législations de travail au Tchad, mais les Chinois ne respectent pas la loi tchadienne. Les Chinois ont piétiné la loi tchadienne. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple palpable. Le directeur général qui a été renvoyé par un arrêté ministériel, ce directeur-là est revenu aujourd'hui, c'est son quatrième jour. Il est là tranquillement, il se promène. Donc, eux, ils ne respectent pas la loi tchadienne. Donc, franchement, ce qu'on est en train de vivre avec les Chinois, c'est la trêve négrière moderne.
Alors, vous avez lancé une grève de 3 jours. Qu'est-ce qui va se passer après?
Oui, bon, on a lancé une grève de 3 jours renouvelable. Et là, on commence à avoir des menaces de la part des Chinois. D'ailleurs, quand on était à la table de la négociation, le directeur général nous a dit, bon, si vous voyez que le 2% qu'on vous a proposé sur votre salaire de base ne vous convient pas, quittez l'entreprise, partez ailleurs, cherchez là où c'est mieux. Donc vous voyez, même chez nous, au Tchad, ils viennent, ils nous renvoient. Donc on ne sait pas ce qu'ils veulent faire ici. Mais nous-mêmes, on les a donné une bonne réponse. On dit, ok, d'accord, si vous voulez qu'on quitte, pour chercher l'entreprise qui est mieux. Vous aussi, vous allez quitter ce pays, allez chercher un pays où vous allez faire vos désordres d'abord aussi. Nous sommes les fils de ce pays. Donc c'est la réponse qu'on leur a donnée. Mais pour le moment, on a observé 3 jours de grève pacifique. Comme ils refusent, ils nous mélangent. Maintenant, on va renouveler notre grève. Ce qui arrive après, là, parce que pour le moment, les Chinois travaillent, nous, on ne travaille pas. Mais après ça, les Tchadiens ne travaillent pas et même les Chinois ne travaillent pas. Donc on verra le 12 à partir de 0h. Les Tchadiens ne travaillent pas et les Chinois aussi ne travaillent pas. Sur leur lettre de menace, là, ils disent qu'ils vont renforcer les gendarmes pour protéger ceux qui vont accepter de travailler. Et ceux qui ne vont pas, les grévistes, on va les rapatrier tous en Djamena, ils vont quitter le site. Donc on est en train d'attendre. On ne sait pas si c'est les gendarmes tchadiens qui vont le faire venir ou bien c'est les gendarmes chinois. Donc c'est ce qu'on attend.
Lagmé Argué, délégué du personnel du consortium pétrolier chinois opérant au Tchad.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Et maintenant, place à la rubrique des 100 citoyens journalistes en RDC. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Théodore Kayamba, journaliste citoyen, Voix de l'Amérique à partir de Butembo. Après le lancement officiel de l'opération d'identification des motos à vide de Butembo par les commissaires supérieurs de la police nationale congolaise au Nord Kivu, le général Vital Oumi Awashango, nous avons emmené notre micro dans le cas des taximens pour savoir comment ils réagissent à cette mesure. Ces taximens disent que la majorité des clients ne peut pas accepter porter les casques, non seulement parce que les casques ne va pas remplir les conditions hygiéniques, mais aussi parce que ces casques sera moins apprécié par les femmes qui ont l'habitude de tresser leurs cheveux. Ils soulignent également que ces casques peuvent facilement transmettre diverses maladies à leurs clients. Ces conducteurs des mototaxis demandent aux autorités d'entretenir d'abord les routes avant de demander aux conducteurs de porter les casques. Pour rappel, le commissaire supérieur de la police nationale congolaise au Nord Kivu, lors de ce dernier passage à vide de Butembo, a enfin dit que toute personne qui conduit ou qui a une moto doit avoir un casque. Selon lui, cette mesure doit être pratiquée mutatis mutandis chez le conducteur que chez le client. Il a aussi précisé que tout client ou conducteur qui utilisera un engin sans casque sera automatiquement assimilé au bandit.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Nouveau sondage d'opinion au Mali, l'ingénieur statisticien malien Sidiki Guindo a interrogé ses compatriotes sur un certain nombre de préoccupations, notamment les poursuites engagées contre le général Amadou Ahia Sanogo et l'idée de poursuivre pour trahison l'ancien président Amadou Toumani Touré. Avec de nouveau Timothée de Nangmaï, les explications de Sidiki Guindo.
Il faut préciser les
déjà que le sondage s'est déroulé dans les 8 capitales régionales et dans les districts de Bamako. Ce sont ces milieux qui sont censés vraiment être au parfum de toutes ces situations. Puis en matière de sondage d'opinion aussi, il y a le choix des fois de la population. Il est inutile d'aller en milieu rural pour poser un certain nombre de questions alors que les gens ne sont même pas au courant de ces faits. Donc ils vont répondre à des questions alors qu'ils n'ont pas assez d'informations pour ces questions. Je reviens sur les résultats. Je disais que concernant l'arrestation de Amadou Aya Sanogo, j'ai trouvé que sur 100 Maliens, il y a 63,6 qui sont satisfaits de cette arrestation. Et quand nous regardons au niveau régional, on trouve qu'il y a deux groupes qui se dégagent. Il y a les régions qui sont assez satisfaits où le taux de satisfaction dépasse 65%. Il s'agit des régions de Kaï, en fait, pratiquement de toutes les régions sauf les régions de Koulikoro et de Ségou, où le taux de satisfaction est relativement faible.
Qu'en est-il de l'idée de poursuivre l'ancien président Amadou Toumani Touré?
Si vous posez la question de savoir est-ce que vous êtes d'accord qu'on lance une poursuite contre l'ex-président Amadou Toumani Touré pour cette trahison, on trouvera qu'il y a 68,2% dans l'ensemble qui disent qu'ils sont d'accord que l'on lance une poursuite, contre 28,2% qui ne sont pas d'accord pour cette action. Et il y a environ 3,6% qui n'ont pas pu donner de réponse à la question.
Quel est l'intérêt d'un tel sondage pour le Mali?
Il faut dire qu'actuellement, dans un pays comme le Mali, où on est en train de s'y remettre après toutes ces élections, je pense que toute action gouvernementale doit tenir compte de l'opinion publique. Je ne dis pas que c'est uniquement l'opinion publique qui doit guider le gouvernement, mais le gouvernement doit poser des actes en connaissance de cause. Aujourd'hui, si vous regardez le Mali, vous allez voir beaucoup de personnes s'expriment apparemment comme si c'était l'opinion publique. Alors que la seule manière pour nous de connaître de manière assez précise l'opinion publique, c'est de procéder à des sondages d'opinion.
L'ingénieur statisticien malien Sidiki Guindo joint à Bamako.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
La Gambie annonce que la langue officielle ne sera plus l'anglais dans cette ancienne colonie britannique. Le président Yahya Jammeh a affirmé ne plus croire qu'il fallait parler cette langue étrangère pour faire partie du gouvernement de Banjul. L'annonce fait suite au retrait de la Gambie du Commonwealth, mais aussi aux critiques du Royaume-Uni dans le domaine des droits de l'homme. L'Afrique du Sud, de son côté, va introduire, non sans critique, le mandarin dans certaines écoles. Pour décortiquer ces deux cas de figure diamétralement opposés, Jacques Aristide a contacté Jérémy Kouadio, expert ivoirien en politique linguistique.
C'est dommage, parce qu'une langue, on ne peut pas décider comme ça d'enseigner une langue. Est-ce que les préalables sont là? Est-ce qu'on fait de la recherche? Est-ce qu'on fait des expériences? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a de la littérature? Est-ce que c'est prêt? Si c'est par réaction, je trouve que c'est complètement une fausse route qu'il prend. Parce que de toute façon, on ne peut pas priver la population gambienne de l'anglais. Même si on veut introduire une autre langue, mais ça ne doit pas se faire en concurrence, ça doit se faire en complémentarité. Si c'est par réaction, je trouve que c'est une mauvaise décision.
À l'ère de l'Internet, à l'ère du commerce international, la Gambie peut-elle vraiment se permettre de se débarrasser de l'anglais?
Je ne crois pas. De toute façon, tous les pays anglophones, francophones, même si nous luttons pour que des langues africaines émergent, il n'y a jamais été question de rejeter l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol, etc. Dans le sens de développer la langue locale en complémentarité avec l'anglais pour que cette langue-là exprime le vécu des populations et que l'anglais vienne en plus, ça, ce serait une bonne décision. Mais apparemment, je crois que c'est une réaction à quelque chose. Je trouve que se précipiter dans des circonstances pareilles, en général, ça ne bouge pas sur de bonnes choses. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ce type de réaction.
De l'autre côté, vous avez l'Afrique du Sud qui va introduire le mandarin dans le cursus scolaire. Pourquoi le mandarin, professeur?
Je crois qu'on ne peut pas reprocher tellement l'Afrique du Sud parce que voilà un pays qui, à côté de l'anglais et de l'africanais, a décidé de développer une dizaine de langues africaines. Et si en plus, elle vient ajouter le mandarin, le chinois, je pense que tout le monde sait que la Chine aujourd'hui est un partenaire incontournable au niveau mondial. Donc je pense à ajouter quelque chose en plus de ce qu'ils ont déjà parce que c'est l'un des rares pays africains qui développe véritablement une dizaine de langues africaines à côté de l'africanaire et de l'anglais. Donc ce n'est pas une décision véritablement à condamner et à prendre le chinois, je pense que c'est un plus plutôt qu'un moins.
Donc quelque part, c'est pour se rapprocher davantage de la Chine, force économique.
Oui, et d'ailleurs, dans les universités africaines, on cherche aujourd'hui à introduire l'enseignement du mandarin à côté du japonais, à côté du français, de l'anglais et de l'espagnol. Donc c'est plus d'ouverture et surtout que la Chine, au niveau du commerce mondial, est devenue incontournable. Donc je pense que c'est pas condamnable, c'est un plus plutôt qu'un moins.
Jérémy Kouadio, professeur de linguistique à l'université Félix Houphouët-Boigny, joint à Abidjan.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le FBI et les agents du Trésor américain sont arrivés à Kiev pour aider les dirigeants intérimaires de l'Ukraine à faire la lumière sur les crimes financiers du gouvernement du président déchu, Viktor Yanukovych. Le but, retrouver et rapatrier des milliards de dollars. Lionel Gahima.
Le nouveau gouvernement ukrainien est déterminé à récupérer une partie des milliards de dollars qui, selon lui, ont disparu sous le régime de Viktor Yanukovych. Et selon l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Pyatt, Washington est prêt à aider.
We are very interested in working with the government to support its investigation of those financial crimes.
Nous sommes très intéressés à travailler avec le gouvernement pour soutenir ses enquêtes sur les crimes financiers. Et nous avons déjà sur le terrain ici en Ukraine les experts du FBI, le ministère de la Justice et le département du Trésor qui travaillent avec leurs homologues ukrainiens pour soutenir l'enquête ukrainienne. Selon des responsables ukrainiens, plus de 20 milliards de dollars de réserves d'or pourraient avoir été détournées et 37 milliards de dollars en prêts auraient disparu. Au cours des trois dernières années, 70 milliards de dollars ont été déposés sur des comptes offshore à partir du système financier de l'Ukraine. Le pays qui a une dette de 75 milliards de dollars a besoin de tout l'argent qu'il peut récupérer. La monnaie de l'Ukraine, la hryvnia, a perdu plus de 20% de sa valeur cette année. Avec la révolution et l'agitation politique, l'économie a pris un coup. Une équipe du Fonds monétaire international est en Ukraine pour négocier les détails d'un financement de 15 milliards de dollars pour soutenir l'économie. Les États-Unis vont consentir un prêt de 1 milliard de dollars pour aider à rétablir la stabilité financière. L'ambassadeur américain affirme que les États-Unis ne sont pas le seul pays à vouloir aider l'Ukraine à récupérer les fonds volés. Il existe une variété d'autres gouvernements qui sont également intéressés à découvrir, à travers les réseaux financiers internationaux, les crimes financiers commis par l'ancien régime et qui veulent voir ce qui peut être fait pour récupérer une partie de ces actifs. Mais tandis que les autorités ukrainiennes, avec l'aide de l'extérieur, parcourent des documents et analysent des données numériques dans le but de retrouver les traces de l'argent, certains Ukrainiens regrettent qu'on soit en train de donner des emplois au sein du gouvernement à ceux qui ont aidé à piller le pays. Le gouvernement intérimaire a nommé certains des oligarques du pays comme les gouverneurs des régions. La députée d'opposition et militante des droits de l'homme, Lesia Horobetz, n'est pas contente de ses choix. Le régime précédent a déjà tout volé. C'est une grande chance pour eux de montrer qu'ils peuvent se comporter différemment. Le gouvernement intérimaire a nommé Tetiana Chornovol, une journaliste d'investigation qui a été presque battue à mort en décembre pour ses reportages sur les milliards volés.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa.
Coup d'envoi ce soir en Europe des huitièmes de finale. Retour de la Ligue des Champions.
Battu au match aller 2-0, Arsenal est en bien mauvaise posture avant le match de ce mardi à Munich. Nous savons que nous pouvons le faire, a pourtant indiqué Arsène Wenger, l'entraîneur français des Gunners d'Arsenal. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Milan AC en difficulté se rend en Espagne avec un but de retard face à l'Atlético Madrid. Clarence Seedorf, le coach des Milanais, a déclaré qu'il fallait mouiller le maillot.
La Ligue africaine des champions, les choses se précisent.
Oui, il reste 16 équipes en lice pour le trophée continental. Reporté en raison des fortes pluies sur Rades, la rencontre Espérance de Tunis, Gor Maria du Kenya, s'est déroulée ce lundi avec le carton 5-0, victoire des Tunisiens, avec notamment le triplé de Jouini. Les huitièmes de finale auront lieu dans 15 jours avec un programme alléchant, Idrissa, notamment Sewe Sport, tout puissant Mazembe ou encore Coton Sport de Garoua contre l'Entente Sétif.
À Libreville, on parle taekwondo.
Le pays accueillait 4 experts sud-coréens pour améliorer le niveau des athlètes gabonais. Écoutons le reportage de Fritz Koum.
Dépêché par la World Taekwondo Peace Corps Foundation of Korea pour ce stage d'une semaine qui a vu la participation d'une cinquantaine de stagiaires comprenant les élèves et les maîtres. Sur les enseignements donnés aux élèves, les experts ont revisité les fondamentaux comme technique de base et démonstration de combat avec les différentes feintes à utiliser pendant les combats. Quant à la deuxième partie qui a vu la présence de tous les maîtres que compte la Fédération gabonaise, les Coréens ont enseigné les nouvelles techniques de base, étant donné que la Fédération coréenne venait de revoir les techniques de base qui étaient déjà dépassées car créées en 1980. Soulignons que le taekwondo gabonais, très prisé depuis le titre mondial remporté par Anthony Obam au Brésil en 2013, a reçu à l'issue de ce stage un don de 400 équipements de la part de la mission diplomatique coréenne au Gabon. Fritz Koum, la voix de l'Amérique.
Merci Fritz. Et puis Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain.
Denver 98, Charlotte 105, Toronto 97, Brooklyn Nets 101. Washington 90, Miami 99, Philadelphia 110, New York Knicks 123, Orlando 98, Milwaukee 105. Maintenant, nous retrouvons Roger Muntou et sa musique. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa. Décidément, Pharrell Williams est partout. La voix la plus entendue du moment était sur scène pour interpréter Happy à l'occasion des Oscars 2014. On écoute Happy.
Ce n'est que normal qu'il soit partout Roger. Pharrell Williams, qui depuis plus de 20 ans est producteur, auteur, compositeur, multi-instrumentaliste et chanteur.
Exact Idrissa, il était dans votre Daft Punk, dans votre Jay-Z et dans les films Moi, Moche et Méchant. On le trouve chez Beyoncé, Miley Cyrus. Il est l'homme derrière le plus grand succès de Robin Thicke, Blurred Lines. Il a fait revenir les Destiny Child hein, après 8 ans d'absence Idrissa. Il a même fait une mixtape avec un ancien joueur de football américain. On comprend pourquoi cette chanson est numéro 1 du hit parade américain.
Pharrell Williams dans Happy. Merci Roger.
Merci Idrissa, bonne journée.
Roger Muntou que vous suivez dans RM Show chaque jour à 20h temps universel. Down. une voix, comme le rappelaient des amis, qui rappelle celle de Curtis Mayfield. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.